sur Fréquence Mistral digne des bains en ce jeudi 3 mai. J'ai le plaisir d'accueillir Noémie et Charlotte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en direct sur dans notre studio de Fréquence Mistral digne pour votre baptême radiophonique. Et vous êtes là parce que demain soir, il y a un événement majeur pour vous.
Oui. L'inauguration des ateliers à Digne.
Et cet atelier, comment s'appelle-t-il et où se situe-t-il exactement ?
Ça s'appelle les ateliers, c'est sur le cours des arrêts, sur la place du marché à Digne. Voilà.
Et qu'est-ce que vous présentez, puisqu'il y a un vernissage apparemment ?
Alors, le principe, c'était qu'avec Noémie, on cherchait chacune un lieu de production pour créer notre vannerie et notre céramique. Et on s'est retrouvés sur ce local. Donc, on a toutes les deux notre atelier, chacune a son espace. Et on a un petit espace d'exposition. Donc, on vernit ce lieu de création. Voilà.
Et vous vernissez sur place ? Il y a un atelier qui est en dehors de ce qui est visible, en pas de porte ?
Oui. C'est en duplex, en fait. Donc, il y a la surface de vente en premier, dès qu'on rentre. Ensuite, tout au fond, vous avez l'atelier de Charlotte. Et il y a un petit escalier en colimaçon qui monte à mon atelier de céramique. Voilà. Mais les gens seront invités à visiter entièrement le local.
Mais comment vous est venue cette idée de vous lancer comme ça ?
C'était une longue histoire.
Et ben,
l'idée, c'est une très belle rencontre, en fait, entre Charlotte et moi. Enfin, tout bêtement, on s'est retrouvés à un moment donné dans la même situation, toutes les deux à la recherche d'un local pour travailler. Une envie, toutes les deux, de produire, de créer, de rester dans un monde, enfin, un milieu très artisanal et de travailler la matière. Et puis, on s'est retrouvés sur le marché l'automne dernier, un petit peu dépité toutes les deux de ne pas trouver d'endroit. Et puis, on s'est dit, tiens, bah, si on s'associait. Et puis, en fait, c'est parti comme ça, un peu sur le ton de la rigolade. Et puis, le soir même, Charlotte me rappelle en me disant « Mais oui, en fait, c'est vrai. Il faut qu'on s'associe. C'est une très bonne idée. » Et puis, de là, voilà, on a commencé à visiter un local. On a eu un coup de cœur sur ce local, en fait.
Ouais.
Parce qu'il est super chouette. Il offre une grande possibilité. Il est très grand, assez lumineux, puisqu'il y a une très grande vitrine. Il est très bien placé. Enfin, à mon sens, il est bien placé, parce qu'on a quand même la chance d'avoir le marché.
Oui, et puis les loyers ne sont pas très chers.
Et puis, on a eu la chance d'avoir un propriétaire qui nous a fait aussi une jolie fleur. Donc, il nous a permis aussi, par là, de nous installer.
Et avant de vous lancer comme ça, vous avez fait des études pour ça. C'est venu tout seul. Vous avez des parents qui vous ont appris, des amis qui vous ont permis de vous lancer là-dedans.
Alors moi, Charlotte, je fais de la vannerie. Donc oui, j'ai fait une école de vannerie en Haute-Marne, l'école nationale d'ostréiculture et de vannerie. Donc ça a duré un an. C'est à peu près 27 heures de vannerie par semaine. C'est formé par des meilleurs ouvriers de France, donc c'est très 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 traditionnel. Ensuite, j'ai été travailler pendant un an à la coopérative de Villaines-les-Rochers. Donc là, j'ai commencé à me faire un compagnonnage en autodidacte.
C'est où Villaines-les-Rochers ?
C'est en Touraine, à côté de Tours, au bord de l'Indre et de la Loire. C'est très joli. Et donc, j'ai fait un an à Villaines-les-Rochers. Et après, donc c'est une coopérative de vanniers, c'est la seule en France qui existe encore, et elle répond à des demandes monstrueuses et internationales. Donc je travaille pour tous les pays du monde qui ont les moyens d'acheter de la vannerie. Et ensuite, j'ai été finir mon compagnonnage en Allemagne avec un artiste vannier allemand. Voilà. Et après, je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise.
Est-ce qu'il faut aller à la base ? Est-ce qu'il faut aller dans l'eau chercher la matière première quand c'est comme ça ?
Dans l'eau, l'osier pousse dans des régions humides, mais aussi dans le sud de la France et le nord de l'Afrique aussi, on trouve beaucoup d'osier. Donc il y a des variétés qui s'adaptent à tous les milieux. Donc pas forcément dans l'eau. Moi j'ai une oseraie à Verdache qui pousse dans un champ, pas loin de la rivière.
Est-ce qu'il y a des différentes qualités d'osier ?
Ah oui, 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 carrément. Bah, comme beaucoup de choses, hein, comme toutes les matières premières, il y a différentes qualités, différents modes de culture. Ça peut être en plus que bio, en bio et en intensif. Voilà, donc il y a différentes qualités d'osier qui sont traitées ou pas, qui cassent ou pas, qui coûtent cher ou pas. C'est comme dans tous les domaines agricoles, on peut trouver de toutes les qualités.
Mais est-ce que comme pour le noyer, un noyer, s'il est près de l'eau, il est blanc, est-ce que c'est la même chose pour l'osier? Est-ce qu'il est plus près d'une région, plus près de l'eau que d'une zone humide ou qui fait que la texture
est différente? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, il va changer de... Il y aura plus ou moins de moelle s'il pousse près de l'eau et plus de fibres s'il pousse éloigné de l'eau. Et puis de toute façon, le terroir a forcément une conséquence sur... le végétal, donc il y aura des couleurs qui vont changer. Après, il y a des attaques d'insectes. Enfin, c'est plein de critères différents qui donnent le résultat de la matière.
Mais est-ce que dans cet osier, il y a une partie de cet osier qui est jetée ou tout est pris à 100%?
Ah non, pas tout est pris à 100%. Une fois qu'on a planté une oserée, on coupe l'osier à ras-le-sol, donc on va récolter plein de brins, et ensuite il va falloir trier l'osier, donc enlever tous les brins indésirables, le classer par taille, donc effectivement il y a quand même de la perte, déjà rien que pour la préparation de la matière.
Et il y a de la main-d'œuvre en amont.
Ah oui, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Ouais, c'est pour ça que la matière première, elle coûte assez cher quand même. On s'en rend pas vraiment compte, mais ça peut aller de 5 à 10 euros le kilo.
D'accord.
Quand même.
Et entre les différentes régions en France, est-ce qu'il y a une région qui est propice à une qualité supérieure?
Oui, aujourd'hui, oui, parce que c'est des traditions qu'on a perdues. Donc, ceux qui sont les plus intéressants, c'est la Touraine et la Haute-Marne. Après, à Cadenay, il y a quelques années, ils cultivaient de l'osier, qui devait être de bonne qualité aussi, mais vu qu'aujourd'hui, on a perdu un peu toutes les traditions de la vannerie, effectivement, il n'y a plus d'osier dans le sud de la France.
Pourtant, au niveau des marchés, on voit souvent fleurir au bras des gens, ouais, des paniers pour aller faire justement ce marché.
Beaucoup c'est plus de paliers de Pologne.
Ah oui?
Oui, beaucoup, ouais.
La main-d'œuvre est venue aussi de Pologne, enfin, si ben, je puis dire.
C'est qu'un panier qui est produit en Pologne coûte moins cher qu'un panier qui est produit en France.
Mais c'est dû à quoi? Sans parler du coût de la main-d'œuvre, est-ce que la qualité de la fibre est différente, ouais, vu qu'elle est un petit peu moins bonne, entre guillemets?
Tout à fait, ouais. Il y a une grosse différence parce que les Polonais... On rentre dans des explications techniques, mais les Polonais ne vont pas décortiquer leur osier, ça veut dire qu'ils ne vont pas le peler. Ils vont le peler, mais en faisant chauffer l'osier dans des grandes bassines où l'eau elle va monter jusqu'à 70. Du coup, l'écorce va s'enlever et pour le coup, elle va teinter l'osier. Donc, c'est un osier qu'aura chauffé et qui sera beaucoup plus cassant. Voilà. Donc, effectivement, ça a des conséquences sur les paniers qui sont moins solides.
Donc, il y a tromperie sur la marchandise, quelque
part. Non, c'est pas tromperie. C'est une adaptation parce que eux, ils avaient beaucoup de demandes. Du coup, ils se sont retrouvés avec des quantités d'osier qu'ils n'arrivaient pas à décortiquer. Alors, ils ont trouvé des procédés pour aller plus vite.
Quand je dis tromperie sur la marchandise, c'est par rapport au coût que peut avoir un panier en France. La différence de prix, les gens vont se dire « Ah, c'est moins cher, pourtant c'est la même chose », alors que ça n'est pas du tout pareil.
Oui, après, il faut être un peu observateur, c'est pas la même chose. Non.
Mais bon, observateur, tout le monde n'a pas votre œil pour le faire distinction.
Après, la vannerie, il faut prendre le panier, il faut le faire bouger, il faut voir s'il y a du jeu. S'il y a du jeu, c'est que c'est pas, ça va pas tenir longtemps.
Et est-ce qu'un bon panier a un son particulier?
Non.
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 Non, non, le son du bois, je
ne
pas.
Non, on m'a déjà demandé. Je sais pas. Je pense pas. Je fais pas crier mes paniers, je ne sais pas.
Non, sans les faire crier, mais d'une manière qui sonne bien par rapport à...
Ouais, j'ai jamais essayé avec des paniers de mauvaise qualité, ni des polonais, donc je peux pas vous répondre sur ça.
Ça sera le moment de le faire peut-être un jour, s'il y a une différence, on ne sait pas.
Ouais. Mais on m'a déjà demandé ça. Je sais pas, je peux pas répondre sur ça.
Et quand vous vous exposez ou que vous voyez des clients potentiels, est-ce qu'ils vous posent des questions par rapport à la qualité de l'osier, de cet assemblage entre les différentes couleurs qu'il peut y avoir?
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Après, moi, je leur explique que l'osier blanc, il est moins propice à l'attaque d'insectes parce que les osiers qui sont bruts, ça veut dire qu'on leur a laissé l'écorce. Là, les insectes, ils peuvent aller se nicher entre l'écorce et le bois. Donc, ils ont des nids et ça permet aux insectes d'attaquer plus facilement l'osier, donc le panier. Donc, techniquement, vaut mieux, si on veut avoir un panier qui vit un siècle, prendre un panier en osier blanc. Voilà.
Est-ce qu'il y a un traitement spécial ?
Non, moi, je ne traite pas mon osier. Il y a des vanniers qui souffrent. À la coopérative de Vilaine, on souffre pour la conservation de l'osier. C'est anticryptogamique et fongicide. Mais moi, je ne procède pas comme ça.
Non, mais est-ce qu'il y a des traitements naturels
Sur la culture de l'osier ? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Ouais, moi, je traite seulement au purin. Mais après, il y a des oséiculteurs qui traitent avec des produits phyto... un peu plus intense.
L'ortie, mais... non, n'utilisez pas.
Alors moi, je fais ortie et prêle. Et cette année, j'aimerais bien faire un petit peu de la conso, donc on verra.
Bien. Et les formes de vos, les formes de vos paniers sont plus ramassées, longues comme pour le pain, pour des paniers à pain. Vous n'avez pas de spécialité précise.
Moi, j'ai une petite spécialité, c'est les clôtures gallo-romaines. Après, je fais de la vannerie traditionnelle parce que j'ai fait l'école et que ça me tient à cœur de faire un métier qui est utilitaire. Et ensuite, je m'amuse sur des formes. Donc, il y a des paniers, on ne sait pas à quoi ils servent. Ils sont utilitaires parce qu'ils peuvent servir. Après, ils ont des formes un peu plus mouvementées.
Et ça va de toute taille ?
Je vais essayer. Il y en a beaucoup des gros. Là, j'ai commencé à faire un petit peu des petites pièces, mais ça varie. Ça va, ça vient. Ouais.
Alors, vous êtes venus avec un petit peu de musique, toutes les deux.
Oui.
Vous étiez au Centre culturel René Char quand The Two était venu au mois de mars. Oui. Ça vous avait laissé un bon souvenir parce que vous aviez acheté le disque.
Ouais.
Donc, avant de passer à la céramique, après le morceau, vous avez choisi le morceau Mojo Horn.
Ouais.
Et on se retrouve juste après.
Super.
Fever in my body, the heat steams through my pores. Fire beneath my skin, sweat rolls down my cheek, fever in my body, the heat seeps through my pores. Fire beneath my skin, sweat rolls down my cheeks. I've been trembling from feet to hands. The pressure keeps mounting on. It's you who's turning me on. Babe, I can't understand. I've been trembling from feet to hands. The pressure keeps mounting on. You turn my mojo on. You turn my mojo on.
Après la vannerie, nous passons maintenant à la céramique. Alors, avec votre collègue, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de cette céramique ?
Ah, comment ça a commencé ? Ça a commencé il y a quelques années à l'École des Beaux-Arts avec Josette Trinchant, voilà, qui est une grande dame pour moi. C'est vraiment la personne qui m'a transmis cette passion, vraiment. Voilà. Maintenant, elle ne travaille plus. Enfin, elle est vraiment retraitée, tout ça. D'ailleurs, je sais qu'elle n'est pas très, très en forme en ce moment. Et si jamais elle m'entend, je lui fais plein de bisous. Voilà. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Ça a été une révélation. Tout d'un coup, j'ai touché cette matière. Je me suis sentie juste à ma place. Et ça a été évident.
C'est quoi ? C'est la texture qui vous a plu ? C'est la maniabilité ?
Oui, c'est hyper agréable hein, déjà de toucher cette matière. Et puis il y a une possibilité, enfin un tas de possibilités. On peut tout faire quasiment avec.
Et pour commencer, c'est un tour à pied, c'est un tour comment ça marche, c'est mécanique, c'est motorisé.
C'est un tour avec une pédale, oui, et c'est électrique.
Et c'est vous qui dosez la vitesse de rotation ?
Ouais. Oui, pour les dames qui ont une machine à coudre, voilà, c'est le même principe qu'une pédale de machine à coudre. Donc ou un accélérateur pour les hommes de voiture.
Il n'y a pas que les accélérateurs pour les hommes dans les voitures.
Et voilà. Non, tout simplement, il y a une pédale et on dose plus ou moins la vitesse.
Et pour ce qui concerne la matière, il y a des, comme pour l'osier, il y a des matières qui sont un petit peu plus nobles au niveau
l'argile.
Par rapport à la richesse, que ce soit des limons, ainsi de suite.
Alors, il y a toutes sortes d'argile, toutes sortes de oui, il y a des terres déjà qui vont être plus lisses, plus chamottées, c'est-à-dire avec un peu plus de grains. Donc les terres chamottées, elles vont être utilisées essentiellement pour tout ce qui est sculpture, puisqu'elles elles ont comme des grains à l'intérieur, et donc autour, on se poncerait les doigts. Voilà, après, il y a du grès, il y a de la faïence, il y a toutes sortes de terres d'argile différentes et qui cuisent plus ou moins fort, quoi. Ça va de 900 degrés à 1400.
Et la terre a un rapport avec la roche ?
Avec la roche ? Oui. Vous me posez de ces questions ? J'en sais rien.
C'est de la roche décomposée.
Oui,
terre.
Voilà.
Par les petits champignons, les petits lichens qui sont accrochés.
Et dans la région, comme pour l'osier, il y a des variétés qui sont meilleures que d'autres. Pour vous, hein.
Moi, j'utilise, j'achète l'argile que j'utilise. C'est pas un filon que j'exploite. C'est un de mes rêves, de ces jours, de le faire. Mais pour ça, il faut de la place, beaucoup de place. C'est-à-dire que là, au centre-ville, l'atelier qu'on a pourrait pas convenir. Parce qu'il faut extraire l'argile, la faire décanter. Des gros bacs. Après, il faut passer sur des tamis pour enlever toutes les impuretés. Enfin, il y a tout un travail qui est assez compliqué. Mais je connais des potiers qui utilisent de l'argile vraiment locale.
D'accord. Pour la conserver, il y a une hygrométrie particulière.
Il faut qu'elle reste toujours humide. Donc, c'est-à-dire où on l'enveloppe dans un film plastique. Il faut toujours, ou un linge humide, il faut vraiment que ça reste humide.
Et vous ne vous fournissez pas au terme ?
Ah non.
Non. Comme il y a de la boue là-bas.
Ah, au bagne.
Au bagne.
Oui, au bagne.
Au bagne, c'est un petit peu plus près que Cayenne.
Oui.
Enfin, sans blague à part, oui. Donc, vous fournissez à Aubagne. Dans le coin,
Non. Il y a d'autres revendeurs, mais voilà, c'est quand même des magasins spécialisés pour les céramistes où on trouve toutes sortes. Il n'y a pas que l'argile, il y a aussi tout autre produit. Et voilà. Moi, j'aime bien aller là-bas. Je peux parler de cet endroit. Ça s'appelle Les Cousins. Et les gens qui y sont extrêmement compétents. Moi, j'adore aller là-bas parce qu'à chaque fois, je tombe sur des personnes avec qui on peut discuter, échanger, plein de conseils. Et puis, c'est vraiment, j'ai appris beaucoup rien qu'en discutant avec les gens des Cousins.
Et pour le prix, il y a l'offre et la demande ou c'est stable pour le coût de ce que vous achetez ?
De ce que j'achète ? Non, c'est assez stable, ouais. Il n'y a pas de... Non, c'est assez stable.
Non, comme ils font venir cette matière première,
ouais.
Est-ce qu'il y a...
Il y a de la terre de Provence. Elle ne vient pas forcément de très loin, la terre. Mais il y a des dizaines de sortes de terres, en fait. Rien que moi, je fais de la faïence. Vous avez de la faïence blanche, vous avez de la faïence noire, de la plus rouge, marron... Enfin, il y a plein de couleurs et enfin plein de sortes différentes.
Et vous les assemblez pour faire ce que vous faites, les œuvres que vous pourrez.
Moi, je ne fais pas de ça, mais ça s'appelle de la terre mêlée et ça fait de très belles pièces. Il y a des céramistes qui ne font que ça. Et c'est très joli. Je sais qu'au Beaux-Arts, j'ai des collègues qui ont fait des assiettes en terre mêlée. Ça fait vraiment des dessins. On ne maîtrise pas en fait le dessin. C'est la terre qui décide toute seule des formes géométriques qu'elle va donner. Et c'est super joli.
Et la cuisson a une importance également ?
Ah oui, oui, c'est fondamental. Oui. Moi, je règle mon four à 1020 degrés. Donc, voilà.
Et c'est tout électrique, vous ?
Oui, c'est un four électrique. Mmh.
Vous n'avez jamais essayé au bois ? Enfin, je ne sais pas si c'est faisable.
Ah ben, bien sûr, toute sorte de cuisson est possible. Après, voilà, il faut aussi savoir choisir et puis se centrer sur une méthode. La mienne, elle est électrique parce que, tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est en ville, on n'a pas de jardin... il y a pas de, j'ai pas la possibilité de faire des cuissons ailleurs, donc et mais mon four me va très bien, c'est chouette.
Voilà.
Par contre, un jour je viendrai à faire des cuissons au bois, tout ça, si un jour j'ai la possibilité d'avoir un extérieur, ce sera génial. Mais c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est que il y a une possibilité incroyable. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie de céramiste pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est énorme. Il y a des méthodes différentes. C'est énorme.
Est-ce que pour un musicien qui ne trouve pas forcément le premier instrument qui lui convient, vous avez essayé différents fours ?
Non.
Non.
Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des fours aux Beaux-Arts, et puis ensuite dans les différents stages que j'ai pu faire. Mais en gros, c'était à peu près les mêmes choses. C'était,
1020 degrés électriques, c'est...
Non, pas forcément 1020. Hein. Ça pouvait être un autre réglage au niveau de la température. J'ai travaillé le grès aussi. J'ai pas fait que de la faïence. J'ai choisi de faire de la faïence, mais j'ai commencé par travailler le grès.
Et est-ce que entre les différentes terres, la cuisson, la température de cuisson est différente,
oui. Oui, le grès, ça cuit à plus forte température. Oui, bien sûr. Ça cuit aux alentours. Enfin bon, là, j'ai pas exactement les températures en tête, mais autour de 1300 degrés. C'est de la haute température, disons, le grès. Et entre 1300 et 1400. Et moi, la faïence, on appelle ça plutôt de la basse température. Ça cuit à 1000. Entre 980 et 1040 degrés.
Sinon, ça casse, ça fait quoi ?
Ah ben, si je mets de la faïence, enfin de l'argile que j'utilise au quotidien là, dans un four de grès, la terre rentre en fusion totale et elle se liquéfie, elle fond. On atteint un point de fusion quoi, qui est trop élevé pour elle et elle se liquéfie.
D'accord.
Ouais.
Et tout, après, c'est jetable, c'est pas réutilisable.
Ah, ça peut être. On peut mettre le feu au four en faisant ça. Enfin bon. C'est. Il faut respecter quand même le degré de cuisson optimal pour chaque terre.
Et donc, demain soir, il y aura ce vernissage à Digne, cours des Arès. Et vous allez exposer beaucoup de ce que vous avez fait, ou vous en avez de côté ?
Là, pour moi, il n'y a que tout ce que j'ai est présent là à l'atelier. Charlotte, tu travailles depuis plus longtemps que moi dans ton domaine.
Ouais, moi, ça fait 4 ans que je suis installée. Alors, il y aura un book avec des pièces que j'ai déjà réalisées. Ensuite, il y aura ma petite collection à moi pour montrer aux gens. Et il y aura des pièces que j'ai produites qui sont destinées à la vente. Voilà. Donc, non, il n'y a pas plus de stock que ça.
D'accord. Et est-ce qu'à la demande, vous pourrez faire des œuvres spéciales ?
Alors oui, moi, je travaille beaucoup sur commande. Donc, je fais de la vannerie sur mesure et je fais des pièces sur mesure, ce que les gens y veulent. Je peux faire des berceaux, des coffres, des paniers à bois... des banquettes de 2 chevaux. Oui, la banquette de 2 chevaux, c'est pour les voitures de plage, pour pas que le sable reste coincé dans les sièges, comme ça il tombe. on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et le sel n'est pas abrasif ?
Le sel sur l'osier ? Non, je pense que ça aide à la conservation, j'aurais tendance à dire. Je sais pas. Je sais pas, on n'a pas fait de bateau en osier encore. Je sais pas.
Voilà. Et ça se passera à quelle heure demain, le vernissage ?
Demain, c'est à partir de 19h, voilà, qu'on pourra venir voir nos productions avec Noémie et boire un petit coup. Voilà.
Vous avez un site, une page Facebook, une adresse,
oui,
un numéro de téléphone ?
Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle Les Ateliers, tout simplement. Donc pour l'instant, il y a quelques photos des œuvres de Charlotte, des miennes. Mais ça sera. Enfin, pour l'instant, on a décidé de ne pas mettre trop de choses non plus pour laisser aussi un petit peu. De surprise, parce que, on a envie que les gens viennent découvrir notre lieu et nos pièces. Et ensuite, la page Facebook sera alimentée régulièrement.
Sûr.
Donc rendez-vous vendredi.
Vendredi. Et moi, je voulais remercier nos propriétaires pour l'accession au local qui nous ont fait. C'est une très bonne chose pour la ville de Digne et surtout pour les artisans comme Noémie et moi. Voilà.
C'est aussi un lieu de partage. On a voulu vraiment que ce soit un lieu de partage. Déjà, de partage entre Charlotte et moi, parce que bah, voilà, c'est énorme. On est hyper complémentaires. On est complètement différentes et aussi très complémentaires. On a réalisé de grandes choses, je trouve, toutes les deux, parce que rien que pour réhabiliter ce local qui était quand même fermé depuis des années, voilà, on s'est fabriqué nous-mêmes nos meubles, tout l'ameublement qui est dans la boutique est fait par nous. Donc voilà. Et puis une a plus de force dans un domaine, l'autre dans un autre, et on se complète énormément. Et du coup, de cette union est né vraiment un lieu qui pour moi est vraiment extraordinaire, parce que je pense que c'est un lieu, quand on rentre, ben voilà, nous ce qu'on a voulu, c'est comme dit Charlotte, je vais reprendre ta phrase, des fois les gens regardent la vitrine, n'osent pas rentrer, puis Charlotte elle dit, mais rentrez, faites-vous plaisir aux yeux, et c'est ça qu'on veut. Faut pas hésiter à rentrer, à venir, on va pas vous sauter dessus, on va pas vous obliger à acheter quelque chose.
On n'est pas là pour faire du business, hein.
Tout à fait. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà, nous, on se fait plaisir. On est dans un lieu où on travaille. Donc, on n'attend pas le client. On n'a pas envie de vous sauter dessus quand vous venez. Nous, on fait notre petite sauce. Hein. Moi, je fais mes poteries. Charlotte, elle fait ses paniers. Et puis, vous pouvez rentrer, regarder et puis repartir comme vous êtes venu. Et ça nous va très bien. Et plus tard, on a aussi envie sûrement d'exposer, de faire profiter... aux autres, hein, ce lieu.
D'autres créateurs ou artisans.
Voilà, donc pourquoi pas. Alors voilà, il faut qu'on soit d'accord toutes les deux, bien sûr, puisque c'est un lieu où on est tout le temps, donc il faut que les œuvres nous plaisent à toutes les deux. Mais voilà, pourquoi pas aussi laisser un peu de place à d'autres.
Tout à fait.
Pour des expositions, voilà, d'une semaine, deux semaines, pourquoi pas.
Vous pouvez juste redonner l'adresse pour demain soir ?
Je te laisse dire.
Alors, c'est au 4 cours des Arès, c'est à Digne.
C'est la place où il y a le marché. Hein, ouais. Ça donne sur la place
alors, du marché des légumes. Alors, le marché de printemps. Hein.
Donc, sur la place du haut.
Si vous voulez vous faire plaisir aux yeux, demain soir.
C'est ça.
À partir de 19h. Merci à vous deux. Merci
Charlotte
et Noémie.
Merci beaucoup à vous.
Merci.